Alors bonjour, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. On est le vendredi 21 octobre 2022 et nous voici réunis pour notre prochaine bénédiction matinale dernière de la semaine. Et donc on continue notre étude sur la thématique « C'est par la foi » dans Hébreux au chapitre 11 et aujourd'hui on étudie un personnage qui m'est cher, Rahab. La femme prostituée qui a hébergé les espions hébreux lorsque ceux-ci se sont présentés à Jéricho et qu'ils se sont apprêtés à envahir la ville. Donc, pour ceux qui veulent déjà ouvrir leur Bible, on aura trois passages essentiellement ce matin dans Hébreux 11, les versets 30 et 31. Le verset 30 étant le verset que nous avons étudié hier. Et puis, on va aller par la suite dans Jacques 2, du verset 25 à 26. Puis, Josué 2, tout simplement pour avoir une bonne idée du texte. Par la suite, on aura une dizaine de versets ou une dizaine de passages qu'on lira aussi tout au long de notre étude de ce matin. Alors, puisqu'on a bien du matériel pour ce matin, on va tout de suite débuter. Alors, merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette autre occasion qui nous est accordée afin que nous puissions étudier ta parole. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir, Seigneur, notre esprit à ta parole, à ta pensée, afin que celle-ci, Seigneur, puisse s'enraciner profondément en nous, croître et porter un fruit qui te sera agréable jusque dans l'éternité. Alors, bénis mon frère, bénis ma sœur. Bénis chacune des personnes qui écouteront cet enseignement dans les prochaines heures, comme dans l'avenir, qu'une même grâce et une même onction, Seigneur, nous soit accordée à tous et chacun lorsque nous écouterons ces propos. Nous t'avons prié avec cette assurance que tu nous aimes et que tu prends soin de nous. Nous t'avons prié dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, et tout le monde peut dire Amen. Alors, je lis pour vous donc dans Hébreux au chapitre 11, les versets 30 et 31, qui nous disent « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Je répète le verset, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Le passage dans Jacques au chapitre 2, les versets 25 et 26 nous disent « Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ?» Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et enfin, Josué 2, à partir du verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici des hommes d'entre les fils d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Les gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Et leur dit, « L'Éternel, je sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Recueille auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort par de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent, ils arrivèrent à la montagne, où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Alors que Dieu puisse bénir sa parole ce matin. Alors simplement une petite mise en contexte pour savoir qui est Rahab. Donc Rahab est une prostituée cananéenne qui habitait Jéricho et qui va aider des espions envoyés par Josué afin de préparer la conquête de la région. Elle va loger les deux espions et va faciliter leur fuite. Et en retour, on lui fait la promesse d'épargner sa vie et celle de toute personne qui serait présente sous son toit lors de l'attaque contre Jéricho. Si elle garde silence à leur sujet, si elle accroche à la fenêtre le cordon de couleur pourpre ou rouge qui lui a été donné, à ce moment-là, on identifierait la maison et les gens qui se trouveraient dans cette maison seraient sauvés. Lors de la prise de Jéricho, la vie de Rahab et de celle de ses proches ont donc été épargnées en raison de sa bienveillance qu'elle a exprimée envers les deux espions israélites. Et c'est ce que nous dit donc Hébreux, le chapitre 11 et le verset 31, notre texte pour aujourd'hui. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Alors, on a 5 points qu'on espère voir ce matin, mais avec quand même pas mal de versets pour illustrer les leçons que nous apporte donc l'exemple de Rahab dans ce passage. Premier point, en raison de sa foi, Rahab a accueilli et a protégé et a aidé les espions israélites. On le voit dans Josué 2, du verset 2 à 7, et puis du verset 15 à 16. On pourrait même lire le verset 15 à 16. « Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ça, c'est les indications qu'elle a données aux espions. On se rappelle comment elle a menti sur la présence des espions chez elle lorsque les gens du roi de Jéricho sont venus s'enquérir auprès d'elle d'où se trouvaient les hommes. Donc, ici, le premier point est le passage dans Jacques qu'on a lu tout à l'heure, dans Jacques 2, le verset 25, nous le dit clairement, le verset 26 aussi. La foi, puisqu'on parle de la thématique de la foi va imposer des actes et des actions. Le verset 26 dans Jacques 2 va nous dire, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » On nous dit particulièrement de Rahab, « Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ?» On nous dit que ce sont ses œuvres qui l'ont justifiée, sa bienveillance qui l'a justifiée, donc les actions qu'elle a posées, qui a fait qu'elle a été sauvée lors de l'attaque de Jéricho. J'aimerais vous lire toujours ce passage de Jacques 2, mais en version français courant. C'est un passage qu'on connaît bien, mais vous allez vous rendre compte qu'en français courant, ça devient encore plus clair pour nous. Alors Jacques 2, le verset 14 à 26, le premier passage un peu long qu'on doit lire aujourd'hui. « Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne la démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit » sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Mais quelqu'un dira, l'un a la foi, l'autre a les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et moi je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Mais les démons le croient, et ils tremblent. Insensé, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Il l'a appelé son ami. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes, pas uniquement à cause de sa foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes? Lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin? Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Voilà pourquoi j'aime lire la Bible dans différentes versions. J'ai un logiciel qui me permet d'avoir une vingtaine de traductions ou de versions en français. Et lorsqu'on relit ces textes d'une version à l'autre, ils prennent beaucoup plus de clarté, notamment lorsqu'on va avec des traductions en français courant. Alors, je pense que ce texte est assez clair pour illustrer le point numéro 1, comme quoi la foi impose des actes et des actions. La foi ne peut pas être strictement un fait de l'esprit, ne peut pas être strictement un fait impalpable, intangible. La foi doit se traduire éventuellement par des actions concrètes et précises. Le deuxième point, on nous dit qu'en raison de sa foi, Rahab a confessé la seigneurie de l'Éternel. Regardons dans Josué 8, 11 le discours qu'elle va tenir. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, et que vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre présence, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux, en bas sur la terre. Donc la foi va pousser Rahab à confesser l'Éternel comme étant Dieu dans les cieux et sur la terre. La foi, comme deuxième point, la foi impose une confession claire, sans ambiguïté, de la suprématie totale de Dieu. La foi ne peut pas présenter un demi-dieu. La foi ne peut pas présenter un Dieu nonchalant. La foi ne peut pas présenter un Dieu qui n'a pas toute la puissance. La foi va présenter un Dieu tout-puissant. Romains 10, les versets 9 à 11, Romains 10, 9 à 11 nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Alors, on nous parle ici dans le verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est avec la foi qu'on parvient à la justice, c'est avec la confession de la bouche qu'on parvient au salut. Il faut donc que notre foi pousse chez nous une confession claire, une confession sans ambiguïté que Christ est le Dieu Tout-Puissant. Troisième point, et on le voit dans Josué 12, 13, Josué 2, les versets 12 et 13, je m'excuse. Regardez ce que nous dit l'Écriture. « Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » En raison de sa foi, Rahab va plaider pour le salut de ceux qui lui sont proches, va plaider pour le salut de ses proches, de ceux qui lui tiennent à cœur. La foi va imposer la conviction que Dieu peut et que Dieu veut sauver. Rahab n'a pas lancé une demande comme ça dans le vide. Rahab savait qu'avec la foi qu'elle avait exprimée envers Dieu et envers les serviteurs qui se présentaient chez elle, elle savait que cette foi-là permettait d'accéder au salut. Mais ce salut, elle n'a pas voulu l'avoir strictement elle. Elle n'a pas demandé strictement pour sa personne, le salut qu'elle a requis était étendu à l'ensemble de ses proches. Donc la foi impose la conviction, effectivement, que Dieu veut et que Dieu peut sauver, mais la foi va aussi imposer que nous donnions de l'expansion à la grâce ou d'étendre la grâce que nous avons nous-mêmes reçue vers nos prochains. Le salut ne peut pas être une chose que nous gardons pour soi. La foi va amener un message du salut dans notre vie assurément, mais qui va aussi devoir se répandre vers l'extérieur. Deux passages pour justifier ce fait aujourd'hui. Romains 10, 1 nous dit « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Donc ici, Paul, en s'adressant à l'Église de Rome, de l'Église de Rome, il est en train de dire que son désir pour les gens de cette génération, pour les gens qui entourent les frères et les sœurs de Rome, c'est que chacun d'entre eux puisse venir à la connaissance de Dieu et être sauvé. Ça, c'est le désir de Paul. Dans 1 Timothée, au chapitre 2, du verset 1 à 4, voici ce qu'il va dire. Toujours en exprimant cette même pensée d'un salut qui doit être répandu à ceux qui nous entourent. Il va dire à Timothée, « Je t'exhorte donc avant toute chose à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc ici, Paul dit clairement, sans ambiguïté, que le désir de Dieu, dans le verset 4 et le verset, dans le verset 3 et 4, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Paul est en train de dire à Timothée, le plan de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Pas une seule partie, pas une seule caste privilégiée, pas simplement un groupe qui a été établi de toute éternité. Non, non. Le salut, Dieu veut qu'il soit répandu sur l'ensemble de l'humanité, incluant les rois, incluant les hommes et les femmes en dignité, incluant les hommes et les femmes en autorité, même si ceux-ci, lorsque Paul est en train de parler à Timothée, sont ceux qui l'oppriment, sont ceux qui le gardent en prison, sont ceux qui s'apprêtent à le mettre à mort, Paul demande quand même de la prière pour tous ces hommes et pour toutes ces femmes, en disant qu'ils font partie aussi du plan divin de salut pour tout homme, pour l'humanité. En fait, ça m'amène peut-être à vous inviter à prier. Hier, il y avait la présentation du nouveau gouvernement du Québec, et je disais dans une publication sur Facebook que nous devrions nous engager à travers les 4 prochaines années à prier pour ce gouvernement, que Dieu puisse agir à travers eux, que Dieu puisse se révéler à eux et qu'ils puissent, à l'instar de ce que Paul dit à Timothée, puissent venir à la connaissance de la vérité et être sauvés. Alors, c'est ce qu'on voyait dans ce troisième point. La foi impose la conviction que Dieu peut et que Dieu veut sauver. Et la foi impose d'étendre le message de la grâce que nous avons reçue, que ce message, on puisse l'étendre à notre prochain. Quatrième point, on le voit dans le verset 14 de Josué 2 et on le voit par la suite du verset 17 à 21. Donc, je lis pour vous le verset 14. Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Verset 17, « Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. » Et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'entre eux sort par la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur quelqu'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit fait selon ses paroles. » Elle prit congé d'eux et ils s'en allèrent et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Donc, quatrième point aujourd'hui, en raison de sa foi, Rahab fit un pacte avec les espions et avec l'Éternel, leur Dieu. La foi va imposer de se lier à Dieu et de rester fidèle à Dieu. Rappelez-vous ce pacte qu'elle fait avec les espions. C'est que si tu ne divulgues pas où on s'en va, si c'est l'armée de Jéricho n'arrive pas à nous attraper et à nous tuer parce que tu aurais révélé notre identité et notre destination. À ce moment-là, nous te protégerons lorsque Jéricho va être pris, ou prise plutôt. Donc, elle va dire, je m'engage effectivement à ne pas révéler où vous êtes parti. Elle n'a pas été voir les soldats du roi de Jéricho pour leur dire, partez vers la montagne, ou partez à droite, ou partez à gauche, pour les poursuivre. Non, elle a dit aux espions, allez de tel endroit parce qu'eux sont partis de l'autre côté. Donc, elle a tenu promesse et elle est restée fidèle dans cette promesse. La foi va donc imposer de se lier à Dieu et de lui rester fidèle. Dans Hébreux 10, le verset 23, on nous dit, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Retenons fermement la profession de notre espérance. Retenons fermement notre promesse de foi. Michée 4, 5 nous dit, « Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. » Je répète, « Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. » Donc ici, ce sont deux exemples. Retenir fermement notre profession de foi et de surcroît à cela, marcher au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Donc notre quatrième point ce matin et avant-dernier point, c'était que la foi impose de se lier à Dieu et de lui rester fidèle. Le point numéro 5. En raison de sa foi, Rahab va devenir un exemple dans l'histoire judaïque et chrétienne. Il y a peu de femmes qui apparaissent dans la généalogie de Jésus. Lorsque vous regardez dans le chapitre 1 de Matthieu, qui nous présente donc, et c'est clairement explicité, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. C'est dans le verset 1 du premier chapitre du Nouveau Testament. Par la suite, on va avec les versets 2 jusqu'au verset 16, donc depuis Abraham jusqu'à Marie, épouse de Joseph, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Et ça, on le voit au verset 16. Il y a peu de femmes qui sont mentionnées dans cette généalogie. Habituellement, c'est telle personne, tel homme, engendra tel fils. Ce fils étant devenu adulte, engendra lui-même tel autre fils, qui devenu adulte, engendra une troisième génération, qui devenu adulte, engendra une quatrième génération. Et on va ainsi de suite jusqu'à Jésus. Par contre, il y a quelques endroits où on nous dit la femme qui a été la mère de cette prochaine génération. Si vous voulez, on reprend les 6 premiers versets dans Matthieu chapitre 1, et on nous dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra, et Tamar était la première femme qui est mentionnée, Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, et c'est ici où ça commence, Salmon engendra Boaz de Rahab. » Donc, Rahab, ici, est mentionnée comme étant la maman de Boaz. Et qui est Boaz? Boaz engendra Obed de Ruth. Donc, on nous mentionne Rahab comme la maman de Boaz, Boaz comme l'époux éventuel de Ruth, qui vont engendrer de leur côté Obed, qui va engendrer Isaïe, qui lui-même va engendrer David. Et on nous dit à propos de David, et c'est le dernier verset, le roi David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Donc ici, on voit Rahab accompagnée de Tamar, accompagnée de Ruth, accompagnée de Bathsheba, la femme d'Uri, accompagnées de Marie à la toute fin, qui sont donc des femmes, les seules femmes, les cinq femmes, qui vont être présentées dans la généalogie de Jésus. Pensez un peu le cas de Rahab. Rahab, elle est de Canaan. Elle est prostituée. Lorsque les hommes vont chez elle, la Bible nous dit clairement qu'ils vont chez une prostituée et qu'ils vont dormir chez elle. Ils vont aller dans une maison close. Ils vont aller chez quelqu'un qui pratique le métier de prostituée. Mais cette prostituée va craindre Dieu. Cette prostituée va héberger donc les espions. Et cette prostituée va être sauvée de la destruction de Jéricho, de la prise de Jéricho, va être amenée saine et sauve, elle et sa famille, avec le peuple, dans la poursuite de la conquête d'Israël, de Canaan, du territoire de la terre promise pour Israël. Et la Bible nous dit qu'elle va trouver donc un mari, Salmon. Est-ce que Salmon était un des deux espions? La Bible ne nous le dit pas. C'est pas clair. Par contre, on voit que quelqu'un, un homme, dans le peuple d'Israël, va prendre pour femme Rahab, et celle-ci, plus jamais, ne va être déclarée comme n'étant pas juive. Pourquoi? Parce que même dans la généalogie du Christ, par la suite, on la mentionne comme partie prenante donc de cette généalogie. Une des rares femmes qui va être donc associée à la maison juive, même si de naissance elle ne l'était pas. La foi va imposer notre existence comme un exemple pour ceux qui nous entourent et pour ceux qui nous succèdent. Lorsqu'on regarde que ce soit Tamar, que ce soit Rahab, que ce soit Ruth, un personnage, probablement un des personnages que je préfère dans la parole de Dieu. Ruth, lorsqu'on parle de Bathsheba même, lorsqu'on parle de Marie, ces femmes-là qui sont mentionnées alors qu'il est illogique qu'elles y soient. Elles sont mentionnées là pour nous servir d'exemple, notamment dans le cas de Rahab, comme quoi une deuxième vie est tout à fait possible, une restauration est tout à fait possible, et d'être greffé à la maison d'Israël est tout à fait possible s'il y a effectivement repentance et s'il y a association avec l'Éternel, avec Dieu et avec son peuple. La foi que Rahab va démontrer envers Dieu et envers le peuple d'Israël va la greffer à tout jamais à la famille d'Israël, et elle va être, par conséquent, la grand-mère ou arrière-grand-mère, que je calcule un peu, Rahab, Ruth, la femme d'Isaïe, donc l'arrière-grand-mère ou arrière-arrière-grand-mère du plus grand roi d'Israël. Imaginez un peu, les Juifs sont très, 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 très fiers de David. Pour eux, c'est le plus grand roi qui n'ait jamais existé, qui n'ait jamais régné sur le royaume d'Israël. L'arrière-grand-mère de David ou l'arrière-arrière-grand-mère de David était une prostituée de Canaan. Et personne ne va dire de David qu'il n'est pas un vrai juif. Personne ne va dire de David qu'il y a une portion de lui qui n'est pas bonne. Personne ne va dire une telle chose même de Ruth. Ruth fait partie, il y a même un livre qui lui est attribué dans l'Ancien Testament, donc dans la Bible juive, un livre complet qui traite de la vie de Ruth. Ça veut donc dire qu'elle est importante, tout comme Rahab, sa future belle-mère, était aussi importante dans l'histoire d'Israël. Peu importe quel a été ton passé, peu importe quel a été ton arrière-plan, peu importe comment tu es venu à Dieu, un nouveau départ, une nouvelle vie peut commencer, et cette nouvelle vie servira, doit servir, pourra servir d'exemple pour les générations qui vont suivre. Lorsqu'on regarde Rahab, la présence de Rahab a assurément formé Boaz, qui lui-même a bien éduqué Obed. Et Obed n'a eu aucun problème à éduquer Isaïe, à éduquer David par la suite. On se rend compte qu'il y avait des valeurs dans cette famille qui sont venues du fait que Salomon a voulu effectivement prendre Rahab comme épouse, qui a tout de suite eu une incidence sur Boaz, qui n'a pas hésité à prendre Ruth comme épouse. Et voilà ce que ça a donné, des femmes qui magistralement apparaissent dans la généalogie d'Israël et dans la généalogie du Sauveur. Alors prions ce matin. Merci Seigneur pour ce merveilleux exemple qu'est pour nous la vie de Rahab. Cette illustration de la grâce possible et de la grâce sans limite qui nous est accessible. Une grâce qui a transformé la vie de Rahab, mais qui a transformé aussi le cours de l'histoire d'Israël. Jéricho a été rendu possible tout d'abord par la foi de cette femme pécheresse qui a confessé ta toute-puissance et qui a confessé sa foi en toi et qui s'est associée à toi et à ton peuple. Alors merci Seigneur pour l'exemple de Rahab. Merci Seigneur parce que ça nous rappelle que malgré un départ difficile, malgré une vie remplie d'iniquité, notre vie peut être transformée et apparaître aussi comme un flambeau, comme un trophée à la gloire de Dieu. Alors merci Seigneur pour Rahab, témoignage encourageant, témoignage poignant de ta grâce, de ta miséricorde et de la puissance de la foi dans nos vies. Nous t'avons prié avec cette assurance que tu nous aimes et que tu prends soin de nous. Nous t'avons prié pour ta gloire et ton honneur. Toi, notre Sauveur, rempli de grâce et d'amour, toi, Jésus, et nous disons tous Amen. Alors voilà ce qui était notre dernier enseignement pour cette semaine. J'espère être en ligne ce soir. Il se pourrait que j'ai un contretemps, mais je suis en train de travailler fort pour régler le conflit d'horaire. Donc, on se retrouve logiquement ce soir vers 19h. Si j'avais un pépin, je vous en aviserai sur Facebook. Mais logiquement, je devrais être là pour 17h, en tout cas, 19h plutôt. Je fais tout mon possible pour être là pour 19h. Alors, sur ce, ça a encore été une belle semaine, remplie de grâce, remplie d'enseignements de la part de Dieu. Et on se retrouve ce soir pour la prière. Sinon, ce sera dimanche matin pour notre assemblée, puis mardi prochain pour la première bénédiction matinale de la semaine prochaine. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse, bonne journée, profitez de la grâce de Dieu, annoncez la grâce de Dieu et ayez foi, ayez foi, ayez foi. Et encore une fois, ayez foi. Soyez bénis.